بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. On va terminer ce soir l'explication, le commentaire, les enseignements à tirer du hadith numéro 6. Avant d'étudier la dernière partie qui va traiter du cœur, on va d'abord répondre à une question qui a été posée la semaine dernière, celle de ressembler ou de se différencier des non-musulmans. Souvenez-vous, dans le dernier cours, on avait traité de ce qu'il fallait prendre ou rejeter des fêtes culturelles, françaises, ou religieuses, ou nationales. Et parmi les arguments sur lesquels on s'appuie pour interdire la participation à toute fête, de manière absolue, sans distinguer ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est culturel, ce qui est religieux, certains rejettent tout en bloc en s'appuyant sur une parole du prophète. Celui ou ceux qui ressemblent à un peuple, à une communauté, font partie d'eux. Bon, j'ai pas eu le temps de vérifier l'authenticité, enfin, le degré d'authenticité de ce hadith. Partons du principe qu'il est authentique, donc que ça peut servir de preuve. Comment comprendre ce hadith? Alors effectivement, ceux qui l'utilisent pour interdire la participation à toute fête française disent qu'ici le prophète, quand il a dit ceux qui ressemblent à une communauté font partie d'eux, ceux qui leur ressemblent même dans ce qui est culturel. C'est comme ça qu'ils l'ont compris. Toute ressemblance physique, culturelle, religieuse, toute ressemblance d'une communauté va conduire nécessairement, d'après cette compréhension du hadith, à faire partie d'eux, et si ce sont des non-musulmans, donc on ferait partie des non-musulmans, donc on connaîtrait leur sort et leur destinée. C'est une compréhension erronée du hadith, à mon sens, et d'après ce que j'ai pu lire autour de cette question. Parce que si on le comprend de manière absolue, on va tomber dans une contradiction flagrante, on va s'opposer à d'autres hadiths qui, dans leur sens apparent, permettent la ressemblance aux non-musulmans dans certains domaines. Je vais vous citer un hadith en l'occurrence, celui rapporté par Abdullah ibn Abbas, qui a été rapporté par l'imam Tirmidhi dans Al-Shama'il et dans d'autres recueils de hadiths. Abdullah ibn Abbas nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam lâchait ses cheveux. Ici, Abdullah ibn Abbas va nous parler des cheveux du prophète, de sa coupe, de sa chevelure. Le prophète lâchait ses cheveux tandis que les polythéistes faisaient tomber leurs cheveux des deux côtés en les séparant par une raie au milieu de la tête. Quand le prophète était à la Mecque, non seulement il ressemblait à ses congénères non musulmans, polythéistes, dans leur tenue vestimentaire, mais en plus, même dans sa coupe de cheveux, il était en harmonie avec les gens de son époque, notamment les Mécois. Donc Abdul Abbas nous dit, au départ le prophète laissait tomber ses cheveux. Excusez-moi, au départ, il ressemblait au polythéiste de la Mecque. Comment il coiffait ses cheveux? Il avait des longs cheveux, hein, comme beaucoup de gens à son époque. Donc il laissait tomber une partie de ses cheveux sur la droite, une autre sur la gauche, et au milieu il y avait une raie. Donc ils étaient séparés. Il nous dit ensuite, or, les gens du livre observaient la première coupe, c'est-à-dire celle de lâcher ses cheveux, sans observer une raie au milieu. Et effectivement, le prophète, quand il est parti à Médine, dans une autre société, avec d'autres citoyens, d'autres confessions, chrétiennes et juives notamment, donc les gens du livre, et bien le prophète a changé de coupe. Comment il a coiffé ses cheveux? Comme les chrétiens et les juifs, c'est-à-dire en mettant une raie au milieu. Donc les polythéistes de la Mecque laissaient tomber leurs cheveux, les juifs et les chrétiens faisaient une raie au milieu. Donc quand le prophète a quitté la Mecque pour aller à Médine, il a changé de coupe, il a commencé à ressembler aux non-musulmans chrétiens et juifs pendant une grande partie de sa vie. Et nous dit Abdullah ibn Abbas, à la fin du hadith, le prophète finit ensuite par séparer ses cheveux. Au final, je pense que j'ai fait une confusion ou je me suis contredit. Je répète, parce que je pense que j'ai confondu. Les polythéistes de la Mecque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Une raie au milieu. Les chrétiens et les juifs laissaient tomber l'inverse. Voilà, c'est là que j'ai confondu l'inverse. Les juifs et les chrétiens observaient une raie et les polythéistes laissaient tomber leurs cheveux. D'accord? Donc, au début, il laissait tomber ses cheveux. À Médine, il a fait une raie au milieu. Et à la fin de sa vie, alors qu'il était encore à Médine, il est revenu à l'ancienne coupe, celle des polythéistes, c'est-à-dire la coupe originelle, celle qu'il avait toujours observée durant sa vie à la Mecque. Et entre le début et la fin du hadith, Abdullah ibn Abbas nous dit, Or, les gens du livre observaient la première coupe, et le prophète avait aimé le ressembler dans ce qui était sujet à son bon vouloir, c'est-à-dire le domaine où Dieu lui avait laissé libre choix, c'est-à-dire dans un domaine où il n'y avait pas de règles, d'interdits. Effectivement, dans la manière de coiffer ses cheveux, on n'a pas un hadith qui imposerait une coupe particulière qui serait propre aux musulmans, et il ne va pas interdire une coupe particulière, si ce n'est, d'après ce que j'ai lu, le fait de raser une partie de ses cheveux et d'en laisser une autre. Le fait de raser complètement une partie de sa tête et d'en laisser une autre, effectivement, c'est déconseillé chez la majorité des savants. Mais observer une coupe qui serait à la mode, tant que c'est pas choquant, c'est pas exagéré, qu'on ne ressemble pas aux femmes. C'est ça les règles. Tant que c'est pas extravagant, qu'on n'a pas une coupe féminine, c'est une coupe masculine, et ça varie d'une époque à une autre, hein, puisque à l'époque du prophète, avoir des longs cheveux, c'était normal, peut-être aujourd'hui c'est choquant. Peut-être qu'aujourd'hui ça serait ressembler aux filles, aux femmes. Donc, dans le domaine où Dieu ne s'était pas prononcé, donc en fait, dans le domaine où on est libre de faire ce qu'on veut, le prophète avait l'habitude, il aimait ressembler aux juifs et aux chrétiens. Dans le domaine où il était libre, il aimait ressembler aux gens du livre. Et en l'occurrence, dans leur coupe de cheveux. Et pourquoi le prophète, à la fin de sa vie, il est revenu à l'ancienne coupe? Parce que quand il a adopté la coupe de cheveux des gens du livre, il avait comme but, comme objectif, de les attirer à l'islam. Puisque pour attirer une personne, créer un dialogue, des affinités, et bien plus on a de points de ressemblance avec une personne, et plus on va s'entendre, notamment dans son apparence. Plus une personne va se différencier de vous dans son apparence, et plus vous aurez et bien comment dire, d'hésitation à quoi? À être ami avec lui. Parce que, comme on dit, qui se ressemble s'assemble. Bon. Donc ça nous prouve, ce hadith nous prouve, qu'il n'est pas totalement interdit de ressembler à des non-musulmans. Puisque le prophète l'a fait, en tout cas dans ses cheveux. Et dans sa tenue vestimentaire aussi. Et ça, on en avait parlé, je pense, dans le deuxième hadith. Quand on parlait de Jibril, qui était venu sous apparence humaine, il était beau. On a bien traité la question de la tenue vestimentaire. On avait dit qu'on a des règles, des principes dans la tenue vestimentaire, mais on n'a pas d'interdit de quoi de s'habiller comme les gens de son époque. Et c'est ce que faisait le prophète. Donc, le hadith qui est utilisé par certaines personnes, enfin, la compréhension du hadith, elle n'est pas bonne. Parce qu'on ira en contradiction avec les faits et gestes de quoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais vous citer maintenant les propos de Ibn Taymiyyah, qui est un grand savant, qui a justement bien compris cette question de quoi? De la ressemblance et de la différence, de la distinction avec les non-musulmans. Qu'est-ce que dit Ibn Taymiyyah dans son livre? Un livre qu'il a écrit pour nous prouver qu'en islam, les musulmans doivent avoir leur propre identité, qu'ils doivent se différencier dans beaucoup de domaines des non-musulmans. Dans ce même livre, il va tenir ses propos. Si le musulman, nous dit-il, réside dans une terre hostile ou dans une terre qui n'est pas hostile à lui, une terre d'accueil, mais sous gouvernance musulmane, non musulmane, c'est-à-dire notre cas. On est dans une terre d'accueil, enfin en tout cas on est né ici nous, et ça se passe bien. On n'est pas en guerre. Il ne lui est pas demandé, le musulman, de se différencier dans son apparence. Pourquoi? Car cela constitue un danger pour lui. Ou si vous le voulez, cela va provoquer des problèmes, va conduire à quoi? À des nuisances dans la société. Le fait de quoi? De faire bande à part, d'être communautariste, même dans notre tenue vestimentaire, hein, notre coupe de cheveux, notre apparence. Mais il lui est recommandé, voire même il est parfois obligé, nous dit Ibn Taymiyyah, de leur ressembler. C'est-à-dire d'opter pour leurs us et coutumes, de s'intégrer à leur modèle culturel. Alors bien évidemment, quand on dit ça, Ibn Taymiyyah suppose, sans aller en contradiction avec des principes dans la religion, tant qu'on est dans un domaine où on est libre, bien évidemment. Donc, il ne lui est pas demandé de se différencier, voire même, il lui est recommandé, et même plus parfois, c'est obligé de leur ressembler dans leurs apparences, dans leurs normes apparentes, si cette attitude, nous dit-il, présente un intérêt religieux, comme les attirer à l'islam, ou protéger la communauté musulmane de leur mal, ou toute autre raison noble qui répond aux finalités de la religion. Donc, Ibn Taymiyyah a compris le hadith autrement, pas comme l'ont compris certains qui ne sont pas savants, ou d'autres qui sont savants, mais à mon avis, qui n'ont pas eu une opinion juste sur la question. Tout n'est pas interdit en matière culturelle, en matière d'apparence, mais tout dépend si cette chose est clairement interdite, et si elle n'est pas clairement interdite, quelles sont ses conséquences? Si ses conséquences sont bonnes, alors elle sera autorisée. Si ses conséquences sont mauvaises, eh ben elle sera interdite, tout simplement. Donc, toutes les fêtes ne sont pas interdites. Tout dépend, est-elle religieuse ou pas? La religieuse, on ne pourra pas. Celle qui n'est pas religieuse, qui est culturelle, qui est sociale, qui est nationale, tout dépendra de quoi? De ce qu'elle a de bon et de mauvais. On fera une analyse et on jugera si participer, c'est positif ou c'est négatif, tout simplement. Après avoir parlé de cette question, on revient au hadith. Je vous rappelle le texte du hadith. An-Nu'man ibn Bashir nous dit « Les choses licites et illicites sont bien évidentes. » Enfin, il dit que le prophète a dit « Les choses licites et illicites sont bien évidentes dans notre religion, mais entre les deux, il y a des choses équivoques qui ne sont pas connues d'un grand nombre de gens. » Donc, ils sont connus par qui? Par un nombre limité de gens. Ce sont en fait les spécialistes, les savants. Ces questions équivoques. C'est pour ça que quand on est dans le doute, on revient vers les savants. Et puis on avait traité de la question hein, précédemment, quel savant choisir, en qui faire confiance? Ça, on en avait bien parlé. Mais celui qui y tombe, quiconque évite ces dernières, c'est-à-dire les questions douteuses, préserve sa religion et son honneur. Et ça, on avait dit que c'était la méthode de la précaution. Et elle est très bonne, la méthode de la précaution. En cas de doute, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me prémunis, je préserve ma religion et mon honneur. Mais on avait dit que cette méthode, c'était une méthode personnelle, c'était un choix personnel, on ne peut pas l'imposer à tout le monde. La précaution, c'est un degré de scrupule, de foi, de piété, qui ne peut pas être demandé à tout le monde. Il sera cette personne, celui qui tombe dans le domaine du doute, qui rentre dedans, sans revenir au savant, qui en fait n'a pas de souci de connaître sa religion de la part des savants, enfin prise des savants, il sera comme le berger qui fait paître son troupeau près d'un enclos réservé. À tout moment, il risque de l'empiéter. Sachez que chaque souverain a un domaine privé et le domaine privé de Dieu, c'est la sphère de ses interdits. Donc, à chaque fois qu'on sent que nous sommes proches de l'interdit, il faudra s'en écarter. Puisque plus on s'approche de l'interdit, plus on le frôle, plus il y a de risque de quoi de glisser et d'y tomber. Voilà. La dernière partie du hadith qu'on va essayer d'expliquer ce soir, sachez qu'il y a dans le corps un morceau de chair, que s'il est sain, il rendra tout le corps sain, mais s'il est malade, tout le corps devient malade. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Ça, cette dernière partie du hadith, elle est très importante. Et quelle est la relation entre la fin du hadith et le début ? C'est évidemment que dans les questions équivoques, ambiguës, eh ben le cœur aura une grande part de responsabilité. Dans la divergence, ton cœur aura une part de responsabilité dans le choix du savant que tu vas suivre, dans le choix de l'avis que tu vas adopter. Ce que le prophète a dit, suis ton cœur ou ta conscience ou ta raison, parce que le cœur, ça englobe la conscience et la raison. Donc, suis ta raison et ta conscience, même si tu entends un avis contraire. Bien évidemment, il faut comprendre ce hadith dans la divergence, c'est-à-dire que tu entends quatre avis différents. Choisis l'avis qui est le plus fidèle à ta religion et qui va apaiser ta conscience et ton cœur. Et si tu entends un avis fondé qui te dérange, tu es mal, eh bien, prends un autre avis qui est autant fondé, mais qui va te réconforter. Donc au final, ton cœur a quand même un mot à dire. Au départ, on revient au savant, on choisit un avis, on revient vers les avis fondés, mais quand on doit choisir, ta conscience a quand même une part de responsabilité. Donc on ne peut pas dire, moi j'ai appliqué tel avis, parce que tel savant l'a dit, tout simplement. Donc un mimétisme aveugle, ça ne marche pas dans la religion. Sauf dans certains cas. Mais quand on peut faire marcher sa raison dans les avis fondés divergents, il faut faire marcher sa raison. Parce que quand tu vas mettre en pratique l'avis, il va avoir des conséquences peut-être néfastes dans ta réalité, tu devras en rendre compte. Tu ne pourras pas dire, c'est parce que tel savant l'a dit. Ou sinon, on est des moutons. Non, on est quand même des êtres humains, on a quand même un cœur, une raison, une conscience, on va rendre des comptes sur les avis qu'on applique. Ça, c'était le lien entre le début du hadith et la fin. Maintenant, le hadith insiste sur l'importance de la purification du cœur. Parce que, comme a dit le prophète, si le cœur n'est pas sain, tout le corps va en pâtir. Donc, le sort... Et quand on dit le corps, c'est-à-dire tes actes. Quand on dit le corps, il faut en comprendre les actes. C'est-à-dire que si ça ne va pas dans ton cœur, eh ben, il y aura un problème dans tes actes. Forcément. Parce que ton cœur, c'est lui le centre ou le moteur de ton corps. Si tu es mal intentionné, tes actes seront peut-être parfois caduques ou parfois tu vas en rendre compte et tu vas... payer. Et nous, on va insister sur les maladies du cœur. D'accord ? Parce que le côté juridique, on l'a bien développé. Maintenant, on va être un peu spirituel, si vous voulez. On va parler un peu de la purification du cœur. Purifier son cœur, ça doit être l'une de nos principales préoccupations dans notre vie. Et il faut plus se préoccuper de l'état de son cœur, parfois, que de certains détails dans nos actes. Et à trop rester dans les détails de nos actes, on tend à quoi ? À oublier son cœur. Et celui qui insiste sur l'état de santé de son cœur, eh ben, c'est une personne qui va faire d'énormes efforts dans sa vie. Parce que comme je vous ai dit, le cœur, c'est lui le centre d'intérêt du diable. Il va essayer de l'égarer d'abord en quoi? En modifiant son intention ou en, comment dire, en rendant malade son cœur. Donc il faut absolument que chaque jour, le musulman s'interroge sur l'état de son cœur, qu'il fasse un bilan, une critique, une autocritique de l'état de son cœur chaque jour. Est-ce que mon cœur est encore pur ou bien mon cœur est-il entaché de certains péchés ou de certaines maladies? Et ça, normalement, disent les savants, les ascètes, si vous voulez, les mystiques, les soufis, les savants du cœur, si vous voulez, ils disent que ça doit se passer au moins chaque soir avant de dormir. Parce que quand on dort, notre âme va sortir de notre corps, elle peut ne plus revenir. Donc on peut ne plus se réveiller et mourir. Et comme la journée est finie, qu'on va se reposer, il faut normalement bien finir sa journée en faisant une autocritique. Et si vous regardez les invocations, les adhkar que l'on dit avant de dormir, c'est ça leur fonction. Vous avez beaucoup recherché dans les chapitres liés au sommeil, les règles de convenance en matière de sommeil, et vous regardez le fond et les propos des adhkar, et vous verrez que ça insiste beaucoup sur le cœur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu amri ilayk. Tout ça c'est lié au cœur, très important, afin de quoi? De clôturer sa journée comme il se doit et de reprendre un nouveau départ, si Dieu le veut bien, le lendemain. D'ailleurs, regardez, quand l'idée de purifier son cœur, de le laver, elle est bien rendue dans l'invocation que l'on est invité à dire en commençant sa prière. En commençant sa prière, quand tu dis Allahu Akbar, quand vous regardez dans Kitab al-Adhkar, vous allez voir un chapitre que dire avant de commencer la lecture du Coran, en commençant sa prière. Et vous avez quelque chose hein, qui va dans le sens de ce qu'on dit. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. Ô Allah, Seigneur, éloigne-moi de mes péchés comme tu as éloigné l'est de l'ouest. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Ya Allah, purifie-moi de mes péchés comme on purifie le vêtement blanc de la saleté de la souillure. Regardez, il a utilisé la métaphore de quoi? Du lavage, comme un vêtement blanc. Donc ton cœur, à l'origine, il est blanc, et il va être entaché par les péchés. Donc nous, ce qu'on veut, c'est, comme on met des vêtements dans la machine à laver, et on met de l'assouplissant, et on met des produits pour bien nettoyer nos vêtements, parce qu'on aurait honte de sortir avec des taches sur nos vêtements, et bien on doit avoir le même souci pour notre cœur. Mais, par la grâce de Dieu, eh ben, les péchés restent cachés. Parce qu'imaginez-vous si chaque péché faisait office d'un grain de beauté sur notre visage, ou d'un grain de laideur plutôt sur notre visage. Vous imaginez, à chaque fois que tu commets un péché, une tache sur ton visage. On ne s'en sortirait pas. Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu et sa miséricorde, les points noirs sont dans le cœur. Ce qui nous permet de quoi? De cacher nos péchés, et peut-être de quoi? De demander pardon sans que les gens ne le sachent. Donc, et à la fin du hadith, à la fin de cette parole, « Seigneur, lave-moi de mes péchés avec la neige, l'eau et la grêle. » Là aussi, c'est une métaphore et une insistance sur cette idée de purifier. Le prophète dit dans cette invocation, « Purifie mon cœur de ses péchés avec de l'eau, de la grêle et de la neige. » Et généralement, quand on nettoie un vêtement et qu'on veut enlever ce qui est sale, on utilise de l'eau chaude et non pas de l'eau froide. Hein? Mais ici, si vous voulez, pourquoi l'eau froide, la neige, la grêle et l'eau? C'est parce que le cœur, quand il est poussé au péché, ça rappelle un peu hein, cet état de quoi de cette âme qui est enflammée. Hein, du désir de quoi? De commettre le péché. Donc ça correspond bien, le froid contre le chaud. D'accord? Et pourquoi est-ce que notre attention doit être portée sur notre cœur, et non pas sur notre apparence, notre corps? plus en tout cas, pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal ne porte pas son regard sur nos apparences, comme a dit le prophète, Dieu ne regarde pas votre corps ni vos apparences, mais son regard est porté sur votre cœur et vos actes. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de ton cœur, hein, et non pas ton corps, si tu es boche, si tu es moche ou beau, si tu es gros ou mince, ça c'est, ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Également, pourquoi insister sur la santé du cœur? Parce que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni enfant, ni argent ne vous sera d'une utilité, sauf pour celui qui est venu avec un cœur salim, c'est-à-dire pur. Donc, n'insiste pas sur ce qui est secondaire, l'amas des richesses, au détriment de quoi? De ton cœur, parce que le jour de la résurrection, ton argent ne te servira à rien si ton cœur n'est pas pur. Mais si ton cœur est pur, donc tu as forcément bien géré ton argent, là ça sera en ta faveur. Également, naturellement et même nécessairement dans notre vie, on prend soin de quoi? De l'état de santé, donc physique, hein, de nos enfants, n'est-ce pas? On est prêt à les emmener au médecin, à les vacciner, la prévention, on met de l'argent. Et quand notre enfant tombe malade, ça nous préoccupe. Et bien on devrait avoir la même préoccupation pour l'état de santé de leur cœur. Parce que c'est ça qui va déterminer si ils seront bien guidés ou égarés. Donc, si on met du temps, de l'argent dans la santé de nos enfants physiques, on devrait avoir mettre autant d'argent, peut-être même plus, pour la santé de leur cœur. Avec tout ce que ça suppose comme achat de livres, faire participer nos enfants à certaines activités qui leur seraient bénéfiques. Donc bien gérer son argent, ne pas se tromper de priorité. Et le mieux c'est quoi? C'est de trouver un équilibre. Parce que le juste milieu, c'est toujours lui qui amène au bonheur. Un juste milieu entre l'insistance sur ce qui est matériel et spirituel. Ne pas délaisser le matériel, ne pas délaisser le spirituel, mais trouver un juste milieu, comme c'était la recommandation du prophète. Et sachez également que l'une des trois fonctions du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était de purifier le cœur de sa communauté. Hein, ça revient souvent dans le Coran quand on parle de la mission du prophète. يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُمْ. Il vous enseigne la parole de Dieu, la sagesse, c'est-à-dire sa sunna, et également il purifie vos cœurs. Donc nous avons dans notre héritage islamique énormément de hadiths, de paroles de Dieu qui insistent sur la purification du cœur, c'est-à-dire comment débarrasser son cœur de ses maladies et de ses péchés. Quelles sont les qualités d'un cœur pur? Quelles sont les qualités d'un cœur pur? Il y en a beaucoup, mais on va essayer de résumer. La première qualité d'un cœur pur, en bonne santé, c'est un cœur vigilant. Ça veut dire quoi un cœur vigilant? C'est un cœur qui est attentif au regard de Dieu. Un cœur qui est pieux, qui se souvient au maximum que Dieu le voit. Et le contraire serait le cœur insouciant. Et Dieu a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqu allaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqu allaha inna allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kal ladhina nasu allaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. O vous les croyants, craignez Dieu, donc ayez ce cœur vigilant, hein, la crainte au sens de je prends conscience qu'il me voit, et pensez à ce que vous allez faire demain. D'accord? Projetez-vous dans l'avenir, faites des projets, imaginez-vous ce que vous allez faire le lendemain comme bien. Wattaqullah et craignez Dieu, car Dieu est au courant de tout. Donc regardez, Dieu est au courant de tout, c'est-à-dire mon cœur prend conscience que Dieu sait ce qu'il y a dedans. Et Dieu me voit partout. Et également, Maintenant, la suite du verset ou le verset suivant va nous parler de l'inverse. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. Ce sont eux, et Dieu a fini par les oublier. Ce sont eux, les gens pervers. D'accord ? Donc l'insouciance, le fait d'oublier Dieu, c'est un état de maladie du cœur. Le fait de quoi ? D'oublier que Dieu te voit. Et ça, c'est un travail à faire. Et l'un des savants qui a atteint un degré de spiritualité élevé a dit « J'ai été éduqué par mon maître. » Il m'a dit, quand j'étais jeune, « Répète quotidiennement un nombre de fois ces deux paroles. Dieu me voit, Dieu m'entend. Allah yarani, Allah yasma'uni. Ou bien muttali'un alay. » Et il a dit « Depuis mon jeune âge, j'ai pratiqué le conseil de mon maître et j'ai répété « Dieu me voit, Dieu m'entend, Dieu me voit, Dieu m'entend » jusqu'à ce que j'ai atteint cet état vigilant du cœur où effectivement cette répétition a fini par devenir une réalité de mon cœur. C'est-à-dire, j'ai pris conscience que Dieu me voyait et il a réussi à quoi ? À s'élever spirituellement. Donc, essayez par le zikr de se souvenir que Dieu nous voit en disant « Dieu me voit, Dieu m'entend » ou en récitant certains azkar que vous retrouvez dans les livres spécialisés. Il y a un homme qui voulait commettre un péché. Il est parti voir un homme de science et il lui a dit « Je veux que tu me donnes l'autorisation de commettre tel péché. » Le savant lui a dit « Tu auras mon avis à quatre conditions. Commets ce péché dans un endroit qui n'appartient pas à Dieu. » Dans un endroit sur terre qui n'appartient pas à Dieu. L'homme de répondre, mais toute la terre appartient à Dieu. Il lui a dit donc, je te permettrai de commettre ce péché si tu l'accomplis dans un endroit où Dieu ne te verra pas. Il lui a dit, mais Dieu me voit partout, je ne peux pas me dérober à son regard. Alors commets ce péché dans un endroit, commets ce péché sans manger de la nourriture et sans t'abreuver de l'eau de Dieu. Il m'a dit, mais toute nourriture et toute eau vient de Dieu. Alors commets ce péché en demandant à l'ange qui inscrit tes erreurs de s'arrêter au moment où tu fais ce péché. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Il a reçu l'ordre de Dieu d'inscrire tous nos péchés. Donc je ne peux pas l'arrêter. Il lui a dit, mais alors je ne peux pas te donner de dérogation. Il lui a dit, mais tu t'es moqué de moi, je suis venu pour que tu me donnes une dérogation et tu m'as rien fait. Il lui a dit, non, je ne me suis pas moqué de toi, c'est toi qui t'es moqué de toi-même. Puisque tu as reconnu que Dieu te voyait, que tu ne pouvais pas aller dans un endroit qui n'appartient pas à Dieu, que tu ne pouvais pas éviter de manger de sa nourriture et de boire de son eau, et tu sais très bien que l'ange va écrire ton péché. Donc, tu ne peux pas commettre ce péché, je ne peux pas t'autoriser. Mais en fait, ce qui nous pousse à oublier ces réalités, c'est qu'on est des êtres humains et qu'on oublie. Donc le remède à l'oubli, c'est quoi ? C'est le zikr. C'est-à-dire faire en sorte, à chaque fois que tu as un temps libre, à chaque fois même que tu es occupé, essaie au maximum, en même temps, que tu accomplis quelque chose avec ton corps, d'occuper ton esprit par le souvenir de Dieu. Par le souvenir de Dieu. Et un homme a demandé au prophète, donne-moi si je me souviens bien, il lui a dit, les obligations, pas les obligations, mais les bonnes œuvres en islam sont très nombreuses. Je veux que tu me conseilles de m'attacher à une bonne œuvre, une seule. Parce qu'il y en a tellement, je suis perdu. J'en veux une seule. Il lui a dit, fais en sorte que ta langue soit toujours mouillée par l'évocation de Dieu. C'est-à-dire, essaie au maximum de te souvenir de Dieu par ta langue. Voilà, c'était le conseil de Dieu, du prophète à cet homme. Le zikr. Ensuite, nous avons une deuxième qualité du cœur, c'est le cœur inquiet. Le cœur inquiet ou inquiété de son sort. Ou si vous voulez, le cœur qui est partagé entre la crainte et l'espoir. Et ça, Effectivement, c'est une qualité que le croyant doit à tout prix essayer de quoi de se doter. C'est-à-dire que, et comment ça va venir ? Par la réflexion, la méditation, à la fois de la récompense de Dieu au paradis et de sa miséricorde, mais à la fois de sa punition et de son châtiment. Et donc, comment faire ? Eh bien, prendre le Coran, prendre les hadiths du prophète qui décrivent le paradis et l'enfer, ou qui décrivent la miséricorde de Dieu et en même temps sa punition. Et plus tu connaîtras, et plus ton cœur sera inquiété. Pourquoi le cœur sera inquiété ? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith rapporté par Abu Hurayra, لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. Si le croyant savait ce que Dieu réserve comme punition et la dureté de son châtiment, alors aucun croyant n'espérera entrer au paradis, ne rêvera entrer au paradis. Parce que si on regarde la dureté du châtiment et les péchés et ce qu'ils engendrent comme punition, on va dire, ben on est foutu. On est foutu, on ne pourra pas entrer au paradis tellement c'est dur. Et il y a des hadiths, vraiment, quand vous les lisez, vous avez vraiment peur. Et ensuite, le prophète dit dans le hadith, « وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ » Et à l'inverse, si le non-musulman, l'incroyant, savait ce qu'il y a auprès de Dieu comme miséricorde et comme récompense, tous les incroyants penseront qu'ils entreront au paradis. Tu vois ? Donc si tu prends les hadiths, les paroles du prophète ou les paroles de Dieu qui te parlent de l'enfer et de ce qui mène à l'enfer, tu te dis je vais y tomber. Et si tu regardes à l'inverse le paradis et la miséricorde de Dieu et son pardon, tu te dis je vais aller en enfer. Et en fait, il faut les deux. Et quand tu as les deux, bah, tu es inquiété. Tu es partagé entre la crainte et l'espoir. Et ça doit être un état permanent durant toute ta vie jusqu'à l'agonie. Au moment où tu es en train de mourir, les savants disent c'est l'espoir qui prend le dessus sur la crainte. La crainte, c'est elle qui généralement prend le dessus durant ta vie. Parce que tu ne sais pas comment va se terminer ta vie. Mais au moment où tu vas mourir, tu sais ta vie si elle était bonne ou mauvaise. Et donc, là, ça doit être l'espoir qui doit prendre le dessus, c'est-à-dire l'espoir d'entrer au paradis et que Dieu pardonne tes péchés. Au moment de quoi ? De la mort. Et je vais vous citer un hadith. Qui nous parle de justement de la miséricorde de Dieu et à la fois du paradis et de l'enfer. Abdullah ibn Mas'ud dit قال رسول الله الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. Le paradis est plus proche de vous, de l'un d'entre vous, que le lacet de sa chaussure. Et l'enfer également est plus proche de vous que le lacet de votre chaussure. C'est-à-dire, à tout moment, tu peux déraper et tomber en enfer ou aller au paradis. D'accord ? Et souvenez-vous, le dernier hadith, le cinquième, la fin du hadith nous parlait de ça. Quelqu'un, toute sa vie, en apparence, il faisait partie des gens de l'enfer, à la fin de sa vie, le destin le précède, et il se repent, il entre au paradis. Et l'inverse, quelqu'un qui fait des actions des gens du paradis, à la fin de sa vie, il dérape et il se retrouve parmi les gens de l'enfer. Donc ça doit provoquer quoi ? Un état d'inquiétude chez le croyant. Et le contraire de l'état inquiet, c'est un état du cœur qui est plein d'assurance. Il y a certaines personnes qui commettent des péchés, et quand on essaie de leur faire la morale, c'est-à-dire de les raisonner, eh bien ils vous disent non. La miséricorde de Dieu est grande. Plus tard, je vais me repentir. Ouais, Dieu pardonne tous les péchés. Et bien ça, c'est pas un cœur inquiet, c'est un cœur qui a eu trop d'assurance. Et ça, c'est pas bon. La troisième qualité du cœur, ce cœur vivant, ce cœur pur, c'est un cœur repentant. Un cœur qui se repent en permanence, et le contraire, ce serait le cœur pervers, celui qui fait des péchés, qui en a conscience, qui peut s'en sortir, mais qui se complaît dans son erreur. Donc un cœur repentant, c'est-à-dire essayer hein, au quotidien de quoi ? Eh bien, de demander pardon à Dieu pour nos fautes, pour nos négligences, pour notre faiblesse. Et le prophète lui-même, comme on le rapporte, il pouvait, en s'asseyant dans un endroit, demander à Dieu de lui pardonner 70 fois, voire même 100 fois. Lui qui est le prophète. La quatrième qualité de ce cœur pur, c'est un cœur obéissant. Et ça, c'est très important. Parce que quand on nous dit tout est dans le cœur, et puis les pratiques, c'est pas la peine, eh ben, on pense que le cœur est détaché du comportement, de la pratique. C'est faux. Tout est lié. C'est pour ça qu'on peut dire un cœur obéissant. Un cœur obéissant, forcément, ça va être un cœur qui va pousser le corps, parce qu'on a dit que les deux sont liés, le cœur va pousser le corps à pratiquer. Et celui qui ne pratique pas par son corps, il y a un problème dans son cœur. Généralement, il y a un problème dans son cœur. Donc un cœur obéissant, c'est celui, le cœur qui va se soumettre à Dieu, qui ne va pas se rebeller. Qui ne va pas se rebeller. Donc quand on nous fait on nous donne un bon conseil, il ne faut pas être pris d'orgueil et de quoi ? De rejeter la personne qui nous donne un bon conseil. Cinquième. Alors, peut-être avant, la preuve que un cœur en bonne santé, c'est un cœur qui pratique, ou c'est un corps qui pratique, c'est la description du cheminement spirituel que nous a fait le prophète dans un hadith, quand il a dit « Dieu, la meilleure des choses que Dieu aime de son serviteur, c'est qu'il accomplisse ses obligations et qu'ensuite il y ajoute des choses facultatives. Mais d'abord, dans le cheminement spirituel, c'est d'abord accomplir ses obligations. Et ensuite, ou en même temps, mais il faut qu'il y ait des obligations, rajouter des choses facultatives. Mais s'il y a un problème dans les obligations, les choses facultatives n'auront pas trop d'intérêt. Elles auront un intérêt, mais pas tellement, puisqu'on a délaissé ce qui est prioritaire. Ensuite, un cœur aimant. Qualité de cœur dont on doit se doter, un cœur pur, c'est aussi un cœur aimant. D'accord ? C'est pas simplement un corps qui pratique, mais c'est aussi un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui aime Dieu et son prophète. Et l'amour de Dieu, ou l'amour du prophète, est lié à l'amour de Dieu. Comme a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, dit prophète, si vous prétendez m'aimer, c'est-à-dire moi Dieu, alors suivez le prophète. D'accord ? Suivez le prophète. Donc l'amour de Dieu est lié à l'amour du prophète, et le cœur aimant, c'est celui qui va justement amener le croyant à un état de délice, un état de bonheur spirituel, de délice de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois choses, si elles sont appliquées par le croyant, il va connaître les délices de la foi. Qu'il aime Dieu et son prophète plus que tout, lorsqu'il aime une personne, il l'aime en Dieu et il la quitte en Dieu. Si un jour il la quitte, ça sera en Dieu. Pas pour une petite dispute qui relève de la vie d'ici-bas, qui relève de la vie matérielle, mais c'est quelque chose qui est lié à Dieu. C'est-à-dire qu'une personne, vraiment, l'amitié en Dieu, la fraternité, c'est que je suis avec la personne tant que on évolue spirituellement. Mais à partir du moment où la personne me retarde, me freine dans ma pratique, me pousse en fait au péché, si vous voulez, ou qu'elle me retarde dans mon cheminement spirituel, je la quitte. Et là, je l'aurai quittée en Dieu. D'accord ? Et c'est ça un véritable ami. C'est un ami qui t'aide dans ta religion, et à partir du moment où il te freine dans ta religion, eh ben, tu dois le quitter. D'accord ? Sauf si, tu restes, en restant avec lui, tu as espoir, toi, de le tirer vers le haut. Mais si c'est lui qui te tire vers le bas, tu dois normalement t'en séparer, hein, en tout cas partiellement, parce qu'il te ferait. Donc un cœur aimant. Alors on a dit les trois choses qui vont t'amener à un délice de la foi, c'est d'aimer Dieu et son prophète plus que tout, d'aimer une personne en Dieu et de la quitter en Dieu, et c'est de détester de revenir dans le péché ou la mécréance pour ceux qui se sont convertis, ou le péché pour ceux qui se sont repentis, qui étaient musulmans mais qui se sont repentis. Donc de détester de retourner vers le péché comme on détesterait être jeté dans le feu. D'accord ? Et effectivement, une personne qui a commis des péchés, ou une personne qui avait un passé dans la mécréance, il peut, à un moment donné, au départ, ou parce que le diable travaille, avoir des regrets, des remords de sa vie passée. Et bien ça va déchirer son cœur. Et pour atteindre un état de sérénité, il faut qu'il déteste ces choses qu'il a délaissées, comme il détesterait être jeté dans le feu. Ensuite, sixièmement, un cœur clairvoyant. Un cœur pur, c'est aussi un cœur clairvoyant. C'est-à-dire, et la pureté du cœur est intimement liée à la clairvoyance, à sa clairvoyance. Le prophète Allah Azza wa Jal a dit, si vous craignez Dieu, si vous craignez Dieu, Allah va vous donner un pouvoir de discernement. Si vous craignez Dieu, vous avez la piété, Allah va vous donner comme cadeau un pouvoir de discernement furqan. C'est-à-dire, si tu fais l'effort de purifier ton cœur, à un moment donné, ton cœur sera tellement pur que tu seras clairvoyant, c'est-à-dire que tu verras les choses comme Dieu le veut. Et dans ce qui va perturber les gens, ce qui va semer le doute, Dieu peut te donner le regard juste. Sur toi-même, sur le monde environnant, sur tout ce qui se passe dans ta vie, comme on l'a dit dans le hadith, que je n'avais pas terminé, ne se rapprochera de moi le croyant, la meilleure des choses par lesquelles il se rapprochera, ça sera de moi, ça sera les obligations, et ensuite il ne cessera de s'efforcer d'accomplir des nawafil, des choses facultatives, en plus, des actes de bien, jusqu'à ce que je sois l'œil par lequel il voit, la main par lequel il prend, et le pied par lequel il marche, ou l'oreille par lequel il entend. Et ça, c'est l'état de clairvoyance. C'est-à-dire que tu as tellement purifié ton cœur, tu as tellement fait de bien, qu'à un moment donné, Allah Azza wa Jalla te donne lumière. Et donc, il est l'œil par lequel tu vois. C'est-à-dire, il te permet de voir exactement ce qu'il veut, et ce qu'il aime. Et même chose pour l'écoute, même chose pour tout ce que tu fais dans ta vie. Donc un cœur clairvoyant. Et cette clairvoyance, bien entendu, elle peut être entachée. Entachée par les péchés, par les maladies du cœur, etc. Également, et c'est la dernière qualité, c'est un cœur qui va se débarrasser de ses maladies. Et ça, on n'en a pas encore parlé. Les maladies du cœur sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses et elles sont destructrices. Si on ne fait pas l'effort de se purifier, une maladie du cœur peut détruire la vie d'un croyant. Parmi les maladies terribles du cœur, il y a l'amour excessif, aveugle de cette vie. C'est-à-dire l'amour matériel. Les savants disent, il faut que la vie d'ici-bas soit dans tes mains, pas dans ton cœur. Mais si la vie d'ici-bas est dans ton cœur et ta religion dans tes mains, tu as fait l'inverse. C'est-à-dire que si tu es riche, intelligent, tu as un bon poste, il faut que tout ça, tu saches que ça relève de la vie d'ici-bas, que ça ne pénètre pas dans ton cœur au point de te faire oublier Dieu et tes priorités, et le jour de la résurrection. D'accord ? Donc, quand ils disent « hubbu dunya », l'amour excessif de cette vie, c'est-à-dire, tu aimes tellement les choses de ce bas monde, ces délices, les passions, les désirs, que tu en oublies tes priorités et ton Seigneur. Parmi également les vices du cœur, il y a l'orgueil. L'orgueil également, c'est un vice très grave, puisque le prophète a dit, n'entrera pas au paradis celui qui a encore dans son cœur un gramme, hein, de quoi, un atome d'orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi, comme l'a défini le prophète? C'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. C'est ça l'orgueil. D'accord? L'orgueil, c'est le fait de mépriser les gens, tu te sens supérieur à eux, tu les rabaisses, et le fait de rejeter la vérité. Quand on te fait une critique vraie, ou quand tu vois la vérité, par orgueil, tu t'en écartes. Et l'orgueil, c'est quelque chose, hein, de très grave. La jalousie également, c'est une maladie du cœur, comme a dit le prophète. Ce qui a détruit les communautés avant vous, si je me souviens bien, c'est la jalousie. D'autres choses, mais notamment la jalousie. Et quand il a dit, méfiez-vous de la faucheuse, celle qui fauche ou qui rase. Et je ne dis pas qui rase les cheveux, mais qui rase la religion. Ils l'ont dit, c'est quoi? Il a dit, c'est la jalousie. Et la jalousie, a dit le prophète, consume, brûle les bonnes actions comme le feu brûle le bois. Jalousie, bon, c'est quelque chose qui peut être une épreuve pour le croyant, d'accord? Puisque le prophète a dit, tu connaîtras 5 conflits en tant que croyant dans ta vie. Un croyant qui te jalouse, un conflit avec un croyant qui te jalouse, un hypocrite qui te déteste, un non-musulman sans foi ni loi qui va te combattre, le diable qui va tenter de t'égarer et ton ego qui va te tenter. Donc, ça existe des croyants qui jalousent leurs frères. Et ça, il faut faire très attention. La haine, un cœur haineux, un cœur qui est haineux, alors que normalement, on doit avoir un cœur plein d'amour et de miséricorde. Ne pas avoir de la haine contre des gens qui t'ont rien fait, parce qu'ils sont différents de toi. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu peux ressentir de la haine envers lui, ça se comprend. Mais quelqu'un qui t'a rien fait, pourquoi avoir de la haine contre lui? Parce qu'il appartiendrait à tel pays, à telle nationalité, à telle famille. Tu as la haine de lui alors qu'il t'a rien fait, tu ne le connais même pas. Également, un cœur égoïste. L'égoïsme, c'est aussi une maladie du cœur. On pense qu'à soi. Alors qu'en islam, comme a dit le prophète, tu n'atteindras la véritable foi, vous ne serez de véritables croyants que lorsque vous aimez pour vos frères ce que vous aimez pour vous-même. Donc un cœur pur, c'est un cœur qui aime, qui veut le bien aux gens, qui n'est pas égoïste. Également, un cœur avare. Un cœur avare. Avare du bien, c'est-à-dire il ne veut faire du bien à personne. Il ne veut faire de bien à personne, il est avare. Également un cœur hypocrite. L'hypocrisie, c'est aussi une maladie du cœur. Un cœur hypocrite. Et les gens qui ont réussi à purifier leur cœur, ce sont des gens qui, dans leur vie, généralement à la fin de leur vie, ils ont des cadeaux de la part de Dieu. Et juste avant de faire ce cours, j'étais avec deux dames. L'une, dont le mari est... il a 2 cancers et en même temps il a perdu un peu sa tête. Et elle m'a dit que son mari, que elle, le soir, quand elle dort à côté de son mari, eh ben, elle a vu à plusieurs reprises, elle me dit, j'en ai des frissons quand je t'en parle, des gens vêtus de blanc qui viennent et qui prennent le Coran et qui lisent sur mon mari. Je lui dis, est-ce que c'est une fois ou c'est plusieurs fois? Elle me dit, c'est fréquent. Et c'est quand je suis seul avec lui, mais quand il y a l'un de mes enfants, non. Quand je suis seul avec lui le soir, à plusieurs reprises, j'ai vu ces êtres vêtus de blanc qui viennent lire du Coran sur mon mari. Alors moi, question logique, qui est ton mari? Qu'est-ce qu'il a fait? Et quand elle m'a parlé de son mari, effectivement, je comprends pourquoi Dieu a envoyé ses anges pour lire du Coran sur son mari. Parce que cet homme, c'était quelqu'un, comme elle me l'a décrit, elle est avec sa meilleure amie. Elle m'a dit, c'est vrai, je confirme tout. C'était quelqu'un qui était aimé par tout le monde, premièrement. Je lui ai dit, n'a-t-il jamais connu un conflit avec quelqu'un? Elle m'a dit, si, une fois, avec son frère, en Algérie, lorsque, il avait demandé à une personne de ramener des poutres Et cette machine, en fait, cette machine est passée par le terrain de son frère pour mettre l'épeautre dans son terrain, lui. Et ça a mis fou de rage son frère. D'accord? Bon, ça a mis fou de rage son frère, il l'a insulté, il a même voulu le frapper. Et quel était son comportement? Il s'est assis, il a croisé ses bras, il n'a rien dit. Alors que il n'avait rien fait de mal. D'accord? Bon. Et ensuite, elle m'a dit autre chose qui est aussi intéressant, c'est que son mari, c'était quelqu'un de silencieux. Lorsqu'il parle, il pèse ses mots. Il ne dit que du bien et des paroles de sagesse. Il était connu pour sa sagesse. D'accord? Ensuite, elle m'a dit également que son mari, c'était quelqu'un de doux, comme on a dit, et de bienfaisant envers ses parents. Son salaire était divisé en deux, une partie pour lui et sa famille, alors que c'était un salaire modeste d'après son travail, et une partie pour son père et sa mère qui sont séparés au bled. Voyez-vous? Donc, effectivement, une personne dont le cœur est pur de toute haine, une personne qui veut le bien aux gens, qui fait ça durant toute sa vie et qui finit sa vie comme ça, c'est une personne de bien qui ressemble au prophète. Et c'est normal, c'est pas étonnant que les anges aiment cette personne et que Dieu fasse en sorte qu'ils lisent du Coran sur lui. C'est pas étonnant. Et on raconte également un médecin dans une conférence un jour, un médecin d'un des pays du Golfe, un pays musulman, il disait: j'ai vu des cas de personnes qu'on a ramenées qui était en train d'agoniser ou qui était morte, et j'ai vu certaines choses extraordinaires. Il a dit: on a ramené un enfant qui avait reçu une balle au niveau du cou, un adolescent. Et quand on me l'a ramené, et je suis rentré pour voir son état, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il disait plutôt? Il tendait le doigt devant et il parlait aux anges. Voilà comment il a dit, il parlait aux anges. Et il est décédé. Suite à ça, il est décédé. Le médecin, curieux, est parti demander à ses parents: comment était votre fils? Décrivez-le-moi. Les parents ont dit: notre fils était quelqu'un qui était bienfaisant. On n'a rien à lui reprocher. C'était quelqu'un de modèle. Et c'était quelqu'un qui enseignait le Coran à la mosquée. C'était quelqu'un qui enseignait le Coran à la mosquée, à ses amis. Et c'était quelqu'un de bienfaisant vers ses parents. C'est pas étonnant. Une personne qui fait ses œuvres de bien peut connaître à la fin de sa vie ce genre de quoi? Entre guillemets, mais c'est pas vrai, ce genre de miracle. D'accord? Entre guillemets. Parce que les miracles sont propres aux prophètes. On dit en arabe karamet, pour les gens qui ne sont pas des prophètes, des cadeaux. Hein, des cadeaux. Également, en Égypte, c'est une histoire également que j'ai entendue, de sources sûres, qu'un homme a prêté de l'argent à son frère. Une grosse somme, prêter de l'argent à son frère, et quand il a eu besoin de son argent et qu'il a fixé une échéance à son frère, que l'échéance est arrivée, il a demandé à son frère de lui rendre l'argent, et son frère a nié en bloc: tu m'as rien passé, t'as pas d'argent chez moi. Et en plus, il voulait faire une umra avec, il a demandé l'argent pour faire une umra. Et il n'a pas voulu faire d'histoire avec son frère, il lui a dit: t'as raison, je t'ai jamais prêté d'argent. Alors on reprend nos relations comme d'habitude, j'oublie. Je vais faire comme tu m'as fait, il n'y a pas de problème. Je vais délaisser mon envie de faire une umra. Il a rêvé le soir, il a vu en rêve le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait une umra avec lui, qui a fait une umra avec lui. D'accord? Et pour lui, c'était une bonne annonce. C'était une bonne nouvelle. Effectivement, avoir le prophète en rêve, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je connais moi personnellement une personne âgée qui est malade. Et beaucoup de gens sont venus le voir à l'hôpital. Et parmi les gens, une personne âgée qui est venue le voir en pleurant et en lui disant: j'ai vu en rêve le prophète me dire, dis à un tel, et c'est toi, je l'agrée, je suis satisfait de lui. Et cette personne, quand vous regardez sa vie, même chose, c'est une personne qui avait un gros cœur, qui a toujours été aux côtés de la vérité, qui a construit une mosquée. Ça, c'est logique, des gens au cœur pur. Même chose, souvenez-vous, c'était dans la conférence dernière, notre conférencier qui est venu, hein, comme chaque mois, et qui a raconté une histoire, qui a dit un homme a vu en rêve le prophète. Le prophète a dit à cet homme, va dire à un tel que je suis satisfait de lui. D'accord ? Et il est parti le voir. Il lui a dit, le prophète a dit, je suis satisfait de toi. Dis-moi pourquoi le prophète m'a dit ça. Et il lui a dit, je vais te dire quelque chose que j'ai toujours caché dans ma vie. Tu es le premier à savoir. Ma femme, quand je me suis marié avec elle, lors de notre première nuit, j'ai découvert que, et elle a reconnu que, elle avait eu des relations avant le mariage. D'accord ? Hors mariage. Ça lui a fait mal. Mais pire que ça, c'est qu'elle lui dit « je suis enceinte ». Donc elle se marie avec cet homme sans lui dire qu'elle est enceinte d'un autre homme. Le mari, au lieu de divorcer, au lieu d'en faire un scandale, qu'est-ce qu'il fait ? Il va protéger son épouse et il va prendre sur lui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va cacher la grossesse de son épouse. D'accord ? Elle va accoucher. Il va prendre ce bébé, et c'était un imam de mosquée, il va prendre ce bébé, et il va le mettre devant la porte de la mosquée, et ensuite il va diriger la prière. En cachette tout ça. Il finit la prière, les gens en sortant disent à l'imam, on a trouvé un bébé abandonné, et l'imam dit, je vais l'adopter. Donc, il a adopté son enfant, l'enfant de sa femme, tout ça pour que les gens ne découvrent pas que sa femme a eu un fils avec un étranger. Vous avez vu le subterfuge, d'accord ? Pour protéger sa femme, pour protéger le péché qu'elle a pu commettre avant son mariage, il va simuler une adoption. D'accord ? Et voilà pourquoi ces gens-là, avec la pureté de leur cœur, ont pu atteindre ce rang spirituel. Et le prophète a dit... Et j'aimerais qu'on insiste sur ce type de sunna. Parce qu'il y en a marre d'entendre « Tu ne fais pas la sunna » et « La sunna, c'est les vêtements, c'est la barbe, etc. » Écoutez ce que dit le prophète Anas ibn Malik. Il lui dit « Ô Anas, celui qui m'aime suit ma sunna et il fait partie de ma sunna. Chaque soir, avant de dormir, de purifier son cœur de toute rancune. » De purifier son cœur de toute rancune. Ça, c'est un travail de quoi ? Un travail du cœur. Personne n'est au courant. Le soir, avant de dormir, tu dis, j'ai pardonné un tel. Il m'a volé de l'argent. Il m'a fait injustice. Je lui ai pardonné. Personne n'est au courant, c'est entre toi et Dieu. Mais aux yeux de Dieu, c'est une grande valeur. Souvenez-vous, cette histoire, quand le prophète a dit dans la mosquée, un homme va entrer, et c'est un homme du paradis. Les compagnons, aux aguets, voient un homme entrer. Il a fait ses ablutions, il prie deux rakat et il sort. Il n'a rien fait de particulier. Abdullah ibn Omar, ou bien ibn Amr, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, ça s'est produit deux ou trois jours de suite. Le prophète dit, un homme va entrer, cet homme du paradis, c'est toujours le même. Il va donc suivre cet homme pour essayer de découvrir c'est quoi son secret. Il va frapper à sa porte en disant, je me suis disputé avec mon père, il m'a sorti de la maison, je voudrais que tu me fasses hospitalité. Il va rentrer chez lui. Il va passer 3 jours chez lui. Et pendant 3 jours, il va l'épier. Et il va dire à la fin de son séjour chez lui, « Ô untel, je t'ai observé pendant 3 jours. Tu ne faisais pas plus que ce que font les autres compagnons. Tu pries un peu de prière nocturne. Tu n'as pas particulièrement jeûné. Bref, tu n'as rien de spécial. Mais le prophète a dit que tu étais un homme du paradis. » « Dis-moi, c'est quoi ton secret ?» Il m'a dit, « Je n'ai rien de particulier, si ce n'est que, avant de dormir, chaque soir, je dis à Dieu, je t'ai offert mon honneur, ya Allah, c'est-à-dire, mon honneur qui était sali par les gens, je te l'ai offert, c'est-à-dire que je n'ai de rancune envers personne, et j'ai pardonné à tous les gens. » Et le compagnon va dire, « Eh bien, c'est ça que tu as réussi à faire et qu'on a eu du mal à faire, nous. Hein » Et quand vous regardez bien, comment a été décrit le prophète ? C'est le prophète de la miséricorde. Et l'un des premiers signes de sa miséricorde, c'est quoi ? C'est le pardon. Il pardonnait à tout le monde. Il pardonnait à tout le monde autant qu'il le pouvait. Donc, le hadith, la fin du hadith est très importante. Elle insiste sur le cœur. Si le cœur va bien, toute ta vie ira bien. Si ton cœur va mal, qu'il est dérangé par certaines maladies, qu'il est souillé par certains péchés, forcément ça n'ira pas bien dans ta vie. C'est un travail très compliqué, c'est le travail d'une vie, de purifier son cœur. C'est un travail quotidien, chaque soir, c'est pas facile, mais peut-être allons-nous connaître le sort de ces gens que je vous ai cités, hein, et qu'on sera aux côtés des prophètes. Voilà. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.